Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est l'été, on a très chaud. Et notre dernier rendez-vous, eh bien, avant nos retrouvailles de septembre. Voilà, un petit peu de vacances, un petit peu de fraîcheur peut-être pour les uns ou pour les autres. Aujourd'hui, notre temps d'antenne va être partagé. Alors, d'abord, avec les humeurs du journaliste Jean-Jacques Fresco, qui est rédacteur en chef d'Infonature. Puis, un court hommage à un ami, Rémi Parmentier, qui vient de nous quitter brusquement. Et enfin, les retrouvailles de Sylvain Pioche, que nous avons entendu mimer, nous parler de son métier de géographe à Paul Valéry. Semaine, son édito, repris par la Gazette, nous plonge dans la météo de l'écologie. Et on peut dire qu'actuellement, elle n'est pas au beau fixe. Jean-Jacques Fresco, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'aime vos coups de gueule. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais c'est quand même très, très important. Et récemment, vous avez fustigé les écolos qui ne font pas leur job dans cette période très difficile. Et pourtant, vous êtes un connaisseur parce que vous relayez l'écologie depuis très longtemps.
Oui, alors effectivement, comme vous, je crois. L'écologie, ça fait partie des champs journalistiques dans lesquels je suis investi depuis très longtemps. Et c'est vrai que dans cette galaxie des gens qui s'engagent pour l'écologie ou autour des sujets écologiques, eh bien, il y a énormément de positions différentes. Voilà, et que parfois, on a du mal à distinguer la direction dans laquelle ces interventions souhaitent nous conduire, alors que on dispose par ailleurs quand même d'outils d'analyse et d'outils conceptuels assez puissants pour penser l'époque dans laquelle nous sommes.
Alors, ce que j'aime dans vos éditos ou dans votre blog, enfin je ne sais pas ce que vous dites, ce qui est repris dans la Gazette, c'est un édito.
C'est l'édito d'Infonature,
voilà,
qui est
c'est l'édito d'Infonature
dans la Gazette.
Voilà. Et j'avoue que celui-là m'a fait réagir parce que j'étais vraiment tellement d'accord et j'aime le ton que vous utilisez parce que vous n'hésitez pas à dire les choses telles qu'elles sont. Donc il s'agissait d'un édito sur cette période de l'Anthropocène, une période qu'on sait de transition écologique et où il devrait y avoir beaucoup de choses à faire, c'est cela ?
Alors oui, c'est vrai qu'on est entré dans cette nouvelle époque géologique qui est caractérisée par l'avènement de l'humanité comme force principale du changement sur Terre, une force telle qu'elle surpasse toutes les formes, les forces géophysiques qu'on connaissait jusque-là. C'est l'âge des humains, c'est celui d'un désordre planétaire inédit qu'on a logiquement nommé l'Anthropocène, Anthropos pour l'humain, et scène pour la période, hein, comme il y a eu l'Holocène ou le Pléistocène auparavant. Alors ça, cette situation-là devrait nous faire converger, devrait faire converger les cerveaux, les consciences, et unir les humains pour faire face à cette situation improbable, inédite, dont ils sont, les humains, à la fois les coupables, et les victimes. Et
alors, on avait déjà vu un petit peu une mobilisation, en tout cas, se créer dans les années 70-80, au moment où, effectivement, on pouvait commencer à constater les dégâts de progrès liée aux Trente Glorieuses, enfin la voiture, les pollutions diverses et variées, etc. Et on avait vu toute une génération de militants et d'écolos se mettre en place. Et là, on pouvait espérer finalement voir aujourd'hui une grosse mobilisation écologique, parce que finalement tout est déréglé, à commencer par le climat.
Mais c'est ce qui a changé depuis la période dont vous parlez, c'est que dans cette période-là, on était déjà entré dans l'anthropocène, mais on ne le savait pas. On ne l'avait pas encore, on l'avait pas encore verbalisé, on ne l'avait pas encore formulé. Vous savez, le mot biodiversité, il n'existait pas. Il a été forgé dans les années 90. Le dérèglement climatique, on en avait quelques scientifiques dans des bases de recherche de la NASA, notamment, commencé à avoir quelques interrogations, mais rien de plus. Depuis, si un secteur dans lequel on a progressé, c'est celui de la connaissance. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, et qui ruine un peu les espoirs qu'on pouvait former à cette époque-là, c'est que plus on sait, moins on a envie de savoir. On ne voit pas.
Vous pensez que c'est ça la raison? Plus on sait, moins on a envie de savoir, c'est-à-dire plus on a peur?
Alors, plus on a peur et plus les disparités s'accroissent. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les nantis de tous les pays s'unir pour capter frénétiquement les ressources avant qu'elles ne s'épuisent. Et ce faisant, ils accélèrent leur épuisement. On voit les guerres faire rage et donc beaucoup reposent sur des enjeux écologiques, environnementaux, d'accès aux mers, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que les esprits se divisent. Les beaux esprits pétris d'idéologie surannée se hâtent de...
Oui, mais alors là, quand vous dites idéologie surannée, on a peut-être besoin d'un peu expliquer.
Alors oui.
Je suis d'accord avec vous. On baigne dans une idéologie surannée, mais peut-être faut-il un peu la décrire.
Dans des idéologies surannées. C'est-à-dire que chacun essaie de qualifier la situation dans laquelle nous sommes entrés, cet anthropocène formidablement inédit, avec ses grilles de lecture préexistantes. Par exemple, le marxiste, qu'il soit néo-crypto-archéo-marxiste, vous dira l'anthropocène, mais non, pas du tout. Il faut parler de capitalocène. Le seul coupable, c'est le capitalisme international. La féministe, et notamment Sandrine Rousseau, vous dira, mais non, sortons de l'androcène, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Par-delà l'androcène, sortons de l'androcène et tout ira bien. Les hommes, plus que les femmes et les classes dominées, portent la responsabilité du désastre, sus au patriarcat. D'autres, je pense au politiste Malcolm Ferdinand, et à sa suite, les décoloniaux s'en prennent aux plantationocènes. Tout le mal vient de la colonisation, des traites négrières, etc. Malcolm Ferdinand parle de négrocène. Toutes ces tentatives de démembrement de l'anthropocène portent en elles le même reproche qui peut être fondé, c'est que parler de l'anthropocène reviendrait à faire porter indifféremment la responsabilité de la catastrophe à tous les humains, le colon comme le colonisé, l'exploiteur comme l'exploité, le milliardaire en jet privé comme le gueux sans chaussures.
Donc, quand vous dites ça, oui. C'est une vision assez globale des problèmes. Et oui. Finalement, vous essayez d'épingler un petit peu ceux qui essaient de voir avec leurs lunettes les choses.
Oui. Ceux qui voient avec leurs lunettes, on va dire, d'analyse forgée au XIXe siècle et développée au XXe siècle, une réalité du XXIe siècle qui est complètement, encore une fois, je me répète, formidablement inédite. Et ça me paraît relever d'un malentendu majuscule. C'est-à-dire que l'anthropocène, c'est un constat. C'est le constat de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça n'est pas l'acte d'accusation. À la base, il y a certes des inégalités, des voracités économiques, bien sûr. Mais il y a surtout le fait qu'il ne s'est jamais produit dans l'histoire du vivant qu'une espèce de grand mammifère connaissent une population de 9 milliards d'individus qui ont colonisé toutes les niches écologiques du globe et qui ont une puissance d'action telle que leur intervention pèse sur tous les écosystèmes simultanément. Constater les dégâts, c'est une chose. En désigner les coupables, ça en est une autre. Et là, effectivement, quand il s'agira de désigner les coupables, parce qu'il y a des coupables, eh bien là, ok, il faudra convoquer le capitalisme à gros cigares, le mal, mal déconstruit ou pas très bien construit, le colon esclavagiste, bien sûr. Mais en attendant, la réalité, c'est que on ne peut pas regarder la situation dans laquelle nous sommes avec les fixettes préexistantes de chacune et de chacun. À ce propos, d'ailleurs, je suis surpris que M. Retailleau n'ait pas encore pensé à nous parler d'islamocène, alors que, vous le savez bien, de la fonte des banquises avec les pavières en passant par les embouteillages sur le périph', tout le mal vient des musulmans, et surtout de leurs frères. C'est cette situation dans laquelle nous sommes, où chacune et chacun, peut-être terrifié par l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés et de la situation dans laquelle nous sommes entrés, préfère regarder avec ses lunettes des siècles précédents.
Bien. Écoutez, je crois que je pense qu'on refera appel à vous et que nous aurons l'occasion de nous reparler, peut-être pour voir ensemble, justement, s'il n'existe pas quelques solutions et quelles sont, comment on pourrait mettre au banc des accusés un certain nombre de tous ceux dont on vient de parler, mais essayer de refaire. Il y avait, Bruno Latour avait dit finalement, c'est quand on saura ce qu'on veut demain que l'on pourra définir nos amis d'aujourd'hui et ceux avec lesquels on va travailler. Peut-être est-ce cela l'avenir? Peut-être qu'on ne sait pas bien encore ce qu'on veut.
Là, c'est toute la question, effectivement. Vous avez raison de citer Bruno Latour, qui, c'est la question qu'il pose notamment dans Où atterrir ? Sont un de ses bouquins majeurs, et effectivement la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est après ces 30 glorieuses que vous évoquiez tout à l'heure, après cette nostalgie des 30 glorieuses dans laquelle nous sommes plus ou moins, la question c'est où atterrir.
Merci Jean-Jacques Rousseau, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Petit hommage à un ami qui vient de nous quitter et qui a été terrassé par une crise cardiaque à Madrid le 26 juin. Et c'était quelque chose d'assez incroyable. Il a travaillé la co-construction de l'UNOC. Nous venions de passer ensemble les journées méditerranéennes à Nice, à la Villa Arson. Il avait rassemblé de nombreux ministres d'Amérique du Sud et il avait lancé une de ses idées qui était une idée force, le principe de protection de l'océan et la naissance, la création de ministère de la mer dans tous les États. Et c'était un rappel de finalement 20 ans de ses luttes pour l'environnement. Il avait rencontré Dumont, il avait rencontré les Amis de la Terre, il avait monté le projet Jonas, entre autres, ce qui est devenu en fait la grande négociation de la Convention baleinière. Et il était quelqu'un qui a défendu les baleines, mais toujours avec des actions non violentes. C'était sa grande différence par rapport à Paul Wilson, qui lui aussi était à Greenpeace. Il a donc fondé le bureau français de Greenpeace, et avec un Cagart, et en lien avec Brice Lalonde, il a lutté contre les essais nucléaires en Polynésie. Alors, il était très conscient des limites de l'engagement électoral. Il restait fidèle à l'action de terrain. Il a beaucoup travaillé avec les ONG et il pensait que pour agir, il fallait justement être sur le terrain en complément de la pression diplomatique. En 2003, il a quitté Greenpeace pour fonder Varda Group à Madrid, un lobby au service des associations. Mais les temps ont changé. Les ONG lui paraissaient tièdes et institutionnalisées. Il nous quitte en ayant presque vu se réaliser l'un de ses rêves, la protection de l'océan par la signature de BBNJ, c'est-à-dire la protection de la haute mer. Retrouvons maintenant maintenant Sylvain Pioche. Il y a quelques semaines, c'était un podcast en mai, je crois, nous l'avons interrogé sur son travail de professeur d'université à Paul Valéry. Aujourd'hui, il revient sur les sujets qu'il enseigne et comment il respecte, enfin, comment devrait-on respecter l'environnement tout en aménageant le territoire. Sylvain Pioche, bonjour.
Bonjour.
Donc, dans votre corpus pédagogique, il y a l'ERC. De quoi s'agit-il exactement? Et est-ce finalement une mesure fondamentale quand on aborde l'aménagement du territoire?
Alors, oui, tout à fait. La séquence éviter, réduire, compenser est une étape très importante qui est au cœur de l'évaluation des impacts des projets d'aménagement sur l'environnement, c'est-à-dire lorsqu'on va construire une route, un pont ou un port en mer, on va regarder l'état initial de l'environnement, on va regarder ensuite ce que cet aménagement va détruire, puisqu'on ne sait pas aménager sans détruire la nature, et en conséquence de quoi, on va essayer d'éviter la destruction de l'environnement au maximum, c'est d'ailleurs la priorité, c'est la première étape de la séquence.
Donc c'est l'éviter.
Tout ce qui peut être évité. Voilà, tout ce qui ne peut être évité, on va tenter de le réduire, par exemple, en diminuant l'emprise de l'ouvrage ou en utilisant des techniques d'aménagement qui soient moins destructrices du sol, par exemple, avec, plutôt que du goudron, utiliser des graviers, par exemple, ou également de créer des aménagements qui vont être un support pour la biodiversité, c'est ce qu'on appelle d'inclure la nature au projet d'aménagement. Et enfin, tout ce qui n'a pas pu être évité ou réduit, et s'il y a une destruction significative de l'environnement, c'est-à-dire une atteinte aux espèces, dans leur cycle de vie, leur déplacement, etc., à ce moment-là, la dernière étape de la séquence, mais qui est la plus compliquée finalement, et celle vers laquelle il faut vraiment aller avec beaucoup de réflexion, c'est la séquence, le volet compensatoire, qui doit restaurer en équivalence avec ce qui a été perdu, la nature.
Alors, vous, cette partie, d'ailleurs, qui a été confiée pour partie à l'OFV à partir de maintenant et qu'on peut retrouver aussi sur le site de l'OFV, donc cette compensation, finalement, est une des parties, à votre avis, qui est sans doute une des moins respectées. En tout cas, elle s'applique un peu n'importe comment et vous avez mené une grosse étude à ce sujet parce que, en fait, vous voyez qu'il y a une très grande diversité des milieux qui sont soumis à des travaux et que finalement les compensations sont assez homogènes, elles ne tiennent pas tellement compte de cette diversité. Donc vous avez mené, vous, une étude sur ce sujet.
Alors, en effet, avec ma collègue Marion Le Texier, qui est géographe et vice-présidente d'ailleurs à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, de la thématique environnement à l'université, et puis une collègue du Muséum National d'Histoire Naturelle, Salomé Gello. Nous avons étudié 3500 mesures compensatoires réalisées en France depuis une quinzaine d'années.
Dans du nord au sud, d'est en ouest, je suppose.
Tout à fait, voilà, sur tout le territoire métropolitain. Et ce qu'on a observé, sans pouvoir conclure sur les raisons de ces observations, c'est qu'effectivement, il y a une mesure compensatoire médiane à l'échelle du territoire métropolitain qui a une certaine superficie entre 1 et 2 hectares qui est.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Parce qu'on ne voit pas très bien.
Bien, ce sont des propositions faites par les aménageurs auprès des services instructeurs, c'est-à-dire DREAL, DDTM, qui cherche à avoir les autorisations d'aménager, c'est-à-dire de détruire une partie de l'environnement pour des objectifs sociaux et économiques. Donc là, il faut être prudent parce qu'il ne s'agit pas d'opposer, la biodiversité avec les enjeux humains, sociaux et économiques, mais il s'agit bien d'allier les deux. C'est d'avoir un aménagement qui soit social, économiquement et écologiquement, acceptable pour le bien à la fois de l'être humain et également de l'environnement.
Ça, et là, c'est le cœur de votre métier.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, cette étude, donc, ce qu'elle montrait, c'était qu'il y avait, malgré la diversité très importante des impacts, c'est-à-dire des effets négatifs des projets sur l'environnement, il y avait une mesure qui, en termes de surface en tout cas, était en moyenne toujours à peu près la même. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il n'y avait qu'une seule mesure compensatoire réalisée dans le milieu marin. Ça, c'était une très grande surprise. Alors, il faut vérifier effectivement que toutes les mesures compensatoires ont bien été enregistrées. Sur.
Mais alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'une mesure compensatoire? Parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, de ce que c'est.
Alors, c'est ce que j'ai dit précédemment.
Enfin, vous nous avez dit, c'est une surface, mais quoi encore? Enfin, je veux dire que, on imagine très bien la destruction d'une forêt, la destruction d'un fond marin. Donc, comment réduire, on imagine très bien aussi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire compenser, par exemple, la destruction d'une forêt ou compenser la destruction d'un fond marin?
Donc, c'est de réparer une forêt à proximité de la zone qui a vu sa forêt détruite. Donc c'est de réparer une forêt qui aurait été endommagée par le passé, une forêt qui aurait subi un incendie, par exemple, naturel ou anthropique, qui aurait été dégradée par des pollutions, etc. Et donc cette forêt qui a un niveau de biodiversité plus bas que ce qui aurait dû être si elle n'avait pas subi de pression, on va dans un premier temps arrêter les pressions, c'est-à-dire les causes de la destruction de cette forêt, et dans un deuxième temps améliorer la réparation, ce qu'on appelle la restauration écologique de la forêt, par exemple en replantant ou en assistant le développement des graines naturelles, en éliminant par exemple les prédations humaines ou d'autres espèces qui viendraient, par exemple, brouter ou surbrouter les régénérations des jeunes arbres. Et tout ça va permettre d'accélérer la réparation de cette forêt qui aurait de toute façon eu lieu dans le temps si les causes de sa destruction sont arrêtées, évidemment. Et donc nous, on va accélérer ce phénomène. L'humain va accélérer ces phénomènes pour avoir des gains de manière plus rapide en équivalence avec les pertes de biodiversité qui ont été générées par un projet. Et c'est pour ça que cette démarche compensatoire, elle est cruciale parce qu'elle peut être à la fois fort utile et vertueuse si les calculs des pertes sont bien réalisés avec des méthodes assez complexes d'ailleurs que les bureaux d'études développent et au niveau national on essaye d'harmoniser. Mais elle peut être aussi un permis de détruire si ces méthodes de calcul des pertes de biodiversité sont mal appliquées ou si nos connaissances des espèces ou des habitats ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être pour les réparer. Et c'est là où se base la difficulté, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable de ne pas détruire l'environnement si on n'a pas les connaissances suffisantes pour le réparer.
Alors aujourd'hui, cette connaissance finalement de la destruction de la biodiversité que vous avez été obligé de mener lors de cette étude, vous la poursuivez aujourd'hui dans une nouvelle dimension qui est celle de l'impact du réchauffement climatique sur les littoraux. Et est-ce que vous avez l'impression que, alors on parle beaucoup d'appliquer des solutions fondées sur la nature, et ça veut dire quoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, on les applique réellement?
Alors, effectivement, le changement climatique est une des causes d'érosion de la biodiversité. Il ne faut pas oublier que la première cause mondiale de destruction de la biodiversité, c'est des questions d'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'artificialisation des sols via l'agriculture intensive, les réseaux urbains, les routes, les carrières, les industries. Ça, c'est très important de le poser. Le changement climatique arrive en troisième position, derrière la surexploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire la surpêche, la surexploitation des forêts, des prairies, etc. Bon. Ceci étant posé, par rapport au changement climatique, on voit effectivement sur les littoraux des transformations très rapides. Tout le monde connaît le blanchiment des coraux à l'échelle mondiale du fait des élévations de température. Nous vivons actuellement en Méditerranée ce qu'on appelle un épisode de canicule marine. C'est-à-dire que nous avons des températures depuis plus de 15 jours supérieures à 25 à 26 degrés, ce qui détruit des espèces qui sont sensibles aux hausses de température, et notamment la gorgone blanche qui meurt depuis, on a des mortalités très importantes depuis à peu près une semaine, et on a des températures qui dépassent les 30 degrés en Méditerranée aujourd'hui, ce qui est extrêmement précoce pour un mois de juin en Méditerranée. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est l'idée que plus on aura de biodiversité autour de nous, plus le carbone va pouvoir être stocké, donc le carbone excédentaire que nous rejetons dans l'atmosphère et qui pour l'instant n'est pas encore suffisamment régulé par nos modes de vie. Donc il faut un changement de civilisation puisqu'on est autour de, vous le savez aussi bien que moi, des énergies fossiles et d'une industrie encore très largement productrice de gaz à effet de serre. Donc ces solutions fondées sur la nature, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un aménagement réalisé par l'homme qui avant pouvait être en béton ou en pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas réaliser cet aménagement, par exemple en plantant de la mangrove quand on est dans les tropiques, en bord de mer, pour protéger un lotissement ou des activités anthropiques, ou si on est en Méditerranée, reconstituer des cordons dunaires en plantant des ganivelles de bois, donc une intervention humaine, qui va permettre de bloquer le sable et de recréer des dunes qui sont une excellente barrière contre les tempêtes hivernales de plus en plus puissantes du fait du changement climatique.
Alors donc, vous avez beaucoup travaillé finalement sur les solutions, et il semblerait que toute cette réflexion sur la biodiversité, puis les nouveaux récifs artificiels, mais on n'aura plus le temps tellement d'en parler, on aura l'occasion de revenir sur une nouvelle génération de récifs artificiels. Toutes ces solutions qui se profilent pour l'avenir semble satisfaisante, semble davantage satisfaisante.
Alors, il y a beaucoup de solutions. Le problème, c'est qu'on est devant une certaine inertie du génie civil du fait, logiquement, de peu de connaissances sur les nouvelles solutions qui utilisent la nature pour des objectifs techniques et économiques qui jusqu'ici étaient remplis par le béton, l'acier, les roches, hein, en gros, l'enrochement, si je me situe sur le milieu marin et côtier, premièrement. Deuxièmement, il y a une perception de ces solutions qui, encore pour beaucoup de gens, n'est pas aussi performante que des structures en béton ou en acier, ou tout simplement qui ne sont pas encore reconnues dans le paysage, puisqu'on est plus habitué à avoir un paysage assez artificiel, notamment sur le trait de côte, avec des digues, des quais et des ports. Demain, si on remplace les digues par des dunes ou dans les milieux tropicaux par de la mangrove, ça crée un changement de paysage qu'il va falloir expliquer aux gens. Et troisièmement...
Alors, les anciennes générations ont sans doute beaucoup plus de mal, mais vous avez des étudiants, donc vous avez une nouvelle génération. Cette génération qu'on dit particulièrement anxiogène et qui a très très peur de son avenir, est-ce que vous arrivez justement à lui redonner de l'espoir, hein, et à lui promettre, ou en tout cas à lui montrer que peut-être on peut encore construire un avenir désirable?
Alors nous, on ne parle pas d'espoir, on parle d'espérance, c'est-à-dire qu'est-ce qui met un mouvement vers une transition écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé ne pourra plus être maintenu en l'état, on en est absolument certain, puisque en arrêtant les gaz à effet de serre, aujourd'hui, on ne commencerait à avoir des effets positifs sur les courbes climatiques qu'au-delà de 2060-2070, si je me réfère au GIEC, premièrement. Et deuxièmement, ces étudiants anxieux, aujourd'hui, nous leur proposons une option qui s'appelle des cours d'humanité écologique, qui sont des cours basés sur les sensations générées par ce changement climatique, comment les accueillir. Vous avez raison, c'est de la peur, de l'inquiétude, de la perte de sens. Et une fois qu'on accueille ces sensations, par exemple avec de l'éco-poétique, avec la psychologie environnementale, la géographie, l'écologie, avec des données précises également, c'est tout ce qu'on a à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, à partir de là, on travaille sur qu'est-ce qui est, à partir des faits, qu'est-ce qui est un mouvement en chacun de nous pour transformer de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et individuellement, chacun à son échelle, à l'échelle de l'individu, puis de la commune, puis de la région, puis des grandes entreprises. Enfin, ça, c'est très important, l'effet d'échelle. Mais en tout cas, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que nous pouvons transformer à travers la concertation citoyenne, à travers nos pratiques, à travers des engagements associatifs, politiques, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'envie de s'associer à d'autres personnes pour un avenir meilleur. Et c'est ça que nous travaillons à l'université avec, par exemple, l'éco-conception des ouvrages, un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, l'éco-poétique, c'est-à-dire l'émerveillement face à la beauté de la nature, qui est une sensation extrêmement puissante à chacun de nous, mais également, ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité d'être des vecteurs de connaissances et de transmettre à d'autres personnes peut-être moins au fait ou peut-être plus fermées par la frayeur que cela génère, hein, des éléments, des données concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer d'évoluer vers un monde que les scientifiques nous décrivent avec pas mal de précision quand même, et vers lesquels chacun de nous devrons trouver des solutions, je répète, à l'échelle individuelle, avant de passer à une échelle collective.
Alors, donc, on aura l'occasion, bien sûr, de vous entendre sur ce sujet qui me paraît être d'une importance considérable, parce que on n'en entend jamais parler, on parle beaucoup des menaces, chacun est en train de prendre la mesure de ce que représentent effectivement les changements climatiques actuels, les nouvelles canicules, etc. Mais finalement, il est proposé très peu de choses. Donc, nous aurons l'occasion de nous retrouver à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Et nous nous retrouverons donc pour parler à la fois des nouvelles solutions et en même temps de la manière dont vous travaillez sur cette éco-anxiété. Merci à vous. Au revoir, Sylvain.
Merci, au revoir, Dominique, et merci à la radio.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.